France Inter, le 6-9 de l'été, Amélie Perrier.
Et à 7h42, c'est l'heure idéale pour un petit tour au jardin, surtout en compagnie d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
C'est gentil, bonjour Amélie, bonjour à tous.
La main verte de France Inter, vous nous emmenez d'abord Alain au parc de La Roche-Fauconnière. Il est bien peu connu du grand public.
Et oui, cela est navrant car ce jardin est pour sa diversité végétale certainement l'un des plus extraordinaires de France. On peut y voir pousser près de 4500 plantes comme des azalées, rhododendrons, tulipiers, magnolias, eucalyptus, c'est considérable.
Ouais. Effectivement. Depuis quand ce jardin existe-t-il?
C'est en 1870 qu'Alfred Favier décide d'offrir à sa demeure un jardin de qualité. Alfred Favier est un avocat et il se passionne pour la botanique. La terre qu'il aménage est située en bordure de falaises. Des falaises alors habitées par les rapaces, d'où le nom de la roche Fauconnière.
D'accord.
Sur 7 hectares, Favier fait venir des plantes d'un peu partout et après son décès, c'est son fils Lyon qui reprend le flambeau et qui privilégie lui les essences méditerranéennes.
Et 5 générations se succèdent ensuite pour entretenir le site, Alain.
Comme Charles Favier qui a beaucoup à faire pour rendre au domaine son apparence après les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. Charles Favier redessine les allées, réinstalle des plantes prélevées à l'autre bout du monde, en particulier des palmiers, des tulipiers de Virginie, des splendides fougères arborescentes.
Et c'est la consécration en 1978.
Et oui, quand le 29 décembre pour être précis, le jardin est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Mais attention, la suite de l'histoire de ce jardin n'est pas glorieuse, elle est même triste. En 1987, des vents violents s'abattent sur le domaine et beaucoup d'arbres sont à terre. À 2 reprises, le domaine est ensuite ravagé par un incendie et comme si cela ne suffisait pas, le jardin est abandonné à la mort du docteur Favier dans les années 1990.
Le parc devient propriété du Conservatoire du Littoral en 2011.
Il est sauvé. 3 ans plus tard, il est créé l'Association du Jardin Botanique et en 2017, c'était hier, la ville de Cherbourg en Cotentin qui est chargée de sa gestion. Pour remettre le jardin en état et sauver les végétaux rares, eh bien, des végétaux magnifiques, mais malheureusement que l'on ne voit pas car ils sont sous les ronces, eh bien, la municipalité envoie sur place pendant 3 jours 180 jardiniers.
Mieux encore, Alain, le parc permettra peut-être de sauver des arbres en voie d'extinction?
Eh oui, comme le Notophagus alessandri, un arbre assez proche du hêtre et qui a disparu presque en totalité de sa terre d'origine, le Chili, le parc de la Roche-Fauconnière possède en effet la plus grande collection de notophagus connue à ce jour. Alors, sachez aussi Amélie que ce jardin offre une vue magnifique sur le port de Cherbourg. Ce petit paradis, faut le savoir, se visite uniquement le dimanche, donc uniquement aujourd'hui ou dans 8 jours, uniquement sur réservation. Alors autant vous dire que si vous voulez vraiment le visiter,
ah oui,
c'est maintenant qu'il faut aller taper sur le clavier www.lacitédesplantes.fr pour espérer avoir le droit de visiter. Mais je pense que si tous les auditeurs intéressés se précipitent en masse, ils vont certainement prévoir quelques visites supplémentaires.
On rappelle l'adresse www.lacitédesplantes.fr. On passe, Alain Baraton, aux questions de nos auditeurs. D'abord Solange qui vous demande, au moment de la floraison, les campanules sont dévorées au collet et la touffe meurt rapidement. Que faut-il faire? Elle précise, Solange, mon terrain est sableux, non humide et les autres fleurs ne sont pas attaquées. Lupin, pois de senteur, zinnia. Alors,
oh, j'adore les campanules, ce sont des fleurs merveilleuses. Vous savez, dans les bandes dessinées, souvent c'est la campanule qui est la fleur qui est représentée comme une grosse clochette, généralement rose ou bleue. C'est une plante merveilleuse qui attire quantité de bestioles.
Ouais,
les escargots, les limaces se délectent de la plante. Elles mangent les feuilles, donc elles ne coupent pas les tiges. Les araignées rouges également aiment venir se nourrir de la sève, tout comme des insectes qu'on appelle les cercops. Mais là, c'est encore la sève qui intéresse et ne coupe pas la plante. Il y a bien quelques champignons comme la rouille qui peut faire des dégâts sur le feuillage. Je ne vois pas pourquoi ils couperaient la tige. Alors, reste une possibilité, une seule à mes yeux. Les campanules détestent avoir trop d'eau. Ce sont des plantes qu'il ne faut arroser que si vraiment la terre est très sèche. S'il y a un excès d'eau, il peut y avoir de la pourriture dite du collet. La pourriture du collet, ce sont des champignons qui se mettent à la base de la tige. La plante ne se tient plus et elle tombe. C'est donc dû à un excès d'eau.
Alors, Emma, elle nous a écouté hier, et hier vous avez dit à l'embaraton que les feuilles permettaient à la plante de boire. Est-ce que vous pourriez être plus précis, vous demandez Emma?
Oui, alors petit cours de botanique rapide. Les plantes absorbent par les racines l'eau qui contient les sels minéraux absorbés dans le sol. Cette sève va monter jusqu'aux feuilles où, sous l'action du gaz carbonique et du soleil, se tient la photosynthèse. Et l'eau, en surquantité, est évacuée par les feuilles. Mais vous êtes-vous déjà, Amélie, posé la question, comment la sève fait-elle pour grimper à 40 mètres en haut d'un arbre?
Ah ben, vous allez me le dire,
eh ben, ils n'ont pas de moteur. Alors, il y a bien sûr le phénomène de capillarité qui attire la sève en hauteur, le phénomène d'osmose, mais ça ne suffit pas. On sait maintenant que ce sont les feuilles qui sont équipées de stomates. Des stomates, ce sont des petits trous qui permettent à la plante de respirer. Et ces tomates agissent un peu comme des mini-pompes. Et ce sont ces mini-pompes qui permettent à la sève de monter. Et il s'avère que quand la plante a soif, quand elle a trop soif, elle réduit ses besoins en eau. Pour réduire ses besoins en eau, elle limite ses feuilles. Si les feuilles tombent à l'automne, c'est que l'arbre anticipe le moment où le gel rendra impossible l'absorption de l'eau, donc il se débarrasse des feuilles. Donc les plantes, effectivement, font monter la sève en hauteur grâce aux feuilles, ce qui explique pourquoi en période de canicule, il y a autant de feuilles qui tombent.
La question de Louise maintenant, est-il vrai qu'il est conseillé de ne pas tondre sa pelouse quand on part en vacances alors?
Oui, c'est exact, parce que déjà ça ne sert à rien,
vu que vous partez,
on ne voit pas l'intérêt. Deuxièmement, ça permettra peut-être à des petites fleurs d'attirer quelques insectes pollinisateurs, mais surtout, l'épaisseur de la pelouse va faire une sorte de tapis sur le sol qui va rendre moins brûlant les rayons du soleil et permettre à votre gazon qui sera jauni à votre retour de vacances, une fois tondu, de redémarrer beaucoup plus rapidement. Donc non content de perdre du temps et de dépenser de l'énergie pour rien, en plus vous risquez de nuire un peu à la santé du gazon. Laissez donc le gazon vivre sa vie, il sera toujours temps à votre retour de tondre, d'arroser un petit peu, il reverdira très rapidement.
C'est les vacances aussi pour la tondeuse.
Oui.
Donc Bernard, lui, il vous demande à quelle distance du tronc il faut couper une branche d'un chêne cassé par le vent.
Mais il ne faut pas, justement. Ah. On croit qu'il le faut. Il le faut pour des raisons d'esthétique, mais la plante,
c'est
elle,
mal cassé par
la plante ne le réclame pas. Les Anglais conseillent même, lorsque la branche est cassée, mais encore maintenue sur le végétal, d'arracher la branche. La cicatrisation sera plus rapide. Si toutefois, pour des raisons d'esthétique, il faut couper la branche en admettant qu'il n'y ait pas de ramification entre l'extrémité de la branche et le tronc, j'espère que vous me suivez, à ce moment-là, vous couperez à quelques centimètres seulement, jamais à l'aplomb du tronc. Il faut toujours laisser une sorte de petit rebord pour permettre à la plante de cicatriser.
Alors Françoise, elle est déjà en train de préparer son barbecue pour le déjeuner et elle vous demande, Alain, est-il déconseillé de brûler certains bois pour les barbecues?
Oui, j'en connais deux, l'if qui est toxique, et le laurier rose qui est également toxique. Alors, vous ne mourrez pas si vous faites un barbecue au laurier rose et avec l'if, mais ne vous éloignez pas trop des commodités. C'est un petit conseil. Oui, je sais, il est 7h50, c'est pas très gai, j'en conviens.
Dernière question d'Henriette. En quelques mots, que pensez-vous des désinfectants pour les pots de fleurs à la
marathon? C'est de l'argent fait, jeté à la poubelle. Quand un pot va être réutilisé, vous le mettez en plein soleil, une journée ou deux, ça suffira largement à tuer toutes les petites bestioles ou tous les petits champignons qui sont à l'intérieur.